les enfants n'ont pas les mêmes cancers du tout que les adultes, et même quand on a l'impression que c'est les mêmes, biologiquement, ce ne sont pas les mêmes tumeurs.
Au début, c'est un peu difficile, puis après, c'est tellement banal, en fait, c'est tellement rentré dans notre vie, qu'au final, on en parle, même comme ça, j'en parle des fois à des proches, comme si je leur parlais de la pluie du beau temps, en fait.
Bonjour à tous. Ce dimanche, nous allons dans un endroit qu'aucun d'entre nous ne souhaite un jour fréquenter, l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, dans le Val-de-Marne. C'est le premier centre de lutte contre le cancer en Europe. Nous nous arrêtons au 9e étage de ce bâtiment, consacré à la pédiatrie. Cancer et enfants, l'association de ces deux mots nous tétanise, elle représente l'inimaginable. Il y a pourtant chaque année 2500 nouveaux cas en France et la moitié d'entre eux concernent des petits de moins de 5 ans. Pour les adultes, des facteurs qui favorisent le développement de la maladie sont connus, et depuis très longtemps, comme l'alcool, le tabac ou encore l'exposition à des produits toxiques. Mais pour les plus jeunes, une cause est très rarement identifiée. Si nous vous proposons cette immersion dans cet univers aussi dur soit-il, c'est aussi pour montrer que 4 enfants sur 5 ressortent guéris et le reste dans les 5 années qui suivent leur traitement. Mais les risques de rechute ne quittent jamais l'esprit de ces jeunes patients qui vivent souvent avec des séquelles lourdes. Les enfants de Gustave Roussy, la vie malgré le cancer, c'est un reportage de Grégoire Le Callot.
Interception, le magazine de reportage de France Inter.
On a des petites lettres aussi d'alphabet là. Mais c'est trop petit. Ça.
Ouais, mais il y a plus de petits.
C'est trop petit. Ouais.
Voilà, on est devant l'espace d'attente. Un espace tout blanc avec des fauteuils rouges, 3 tables, avec des crayons de couleur dessus pour que les enfants patientent en s'occupant. Ceux qui ont une console ont préféré jouer à la console. Ils voient les médecins en consultation pour faire un bilan sur leur état de santé. Et en face de cette salle, il y a 4 dames avec des blouses roses. On va aller les rencontrer.
On a le droit, en fait, de le faire.
Bah oui.
Alors, donc, votre nom, c'est...
Alors, je suis Madame Forgue Jeannie. Je fais partie des Blouses Roses et nous sommes là pour occuper les enfants pendant leur temps d'attente pour aller chez le médecin.
Donc vous êtes d'une association, donc
oui,
vous
nous
êtes
faisons partie
vous, vous prenez Blues sur Rose. Votre temps à vous.
Voilà, nous sommes des bénévoles de l'association Les Blouses Roses. Oui, on a fêté nos 70 ans il y a 2 ans.
L'association, pas vous.
Oui, pas nous. Ouais. Nous, on les a dépassés. Enfin, moi, je les ai dépassés les 70 ans.
Parce que c'est pas un peu dur quand même de...
Eh bien, c'est moins dur qu'on peut le penser. Enfin, parce que les enfants, ils sont tellement toniques, ils sont tellement en la pêche que tout compte fait, on oublie qu'ils sont malades.
Oui, on voit plus les enfants avant les malades, en fait. Ouais.
Ils viennent ici, donc on ne va pas dans les chambres. Donc là, ils sont vraiment prêts à jouer. Moi, je suis grand-mère de 2 petites filles, mais ça n'a rien à voir. Les amis me disent toujours, mais... C'est bizarre parce que t'es grand-mère, t'as déjà des petits-enfants, mais c'est pas du tout le même but, finalement. Non. S'occuper des siens et aller ailleurs, enfin, je veux dire que faire du bénévolat, c'est gratifiant.
Moi, je suis passée par là, j'ai eu mon petit-fils qui a eu un cancer, qui est décédé ici, d'ailleurs. C'est pour ça que moi, ça m'a incité à venir ici. Je me sens bien ici parce que je suis près de lui, si vous voulez. Et je vous dis, je me sens proche de mon petit-fils, il a fait 5 ans quand il est décédé. Et je me sens proche de lui quand je suis ici, j'ai l'impression d'être avec lui. Mmh. Bah, c'est ma motivation en fait.
Finis vous. Hein.
Moi je m'appelle Jokunda, j'ai 18 ans depuis décembre.
Et tu viens d'où ?
Alors j'habite à Paris-Montparnasse, dans le 14e arrondissement.
Tu vois un peu chez toi quoi quand tu regardes par la fenêtre. Toi ça fait longtemps que tu es ici ?
En février ça fera 1 an. Mmh. Je suis ici. À l'Institut Gustave aussi.
Et de temps en temps, tu rentres chez toi, de temps en temps, tu reviens ici.
Ça a été compliqué, moi, parce que au tout début de la maladie, j'avais des douleurs et aux mêmes heures. C'est-à-dire que vers 22h, l'heure de se coucher avant d'aller à l'école, j'avais des douleurs sur les côtes. et c'était impossible de dormir. Je ne dormais pas jusqu'à 4h, 5h, et puis je partais à l'école comme ça, et ça se répétait pendant 2 semaines. Je suis quelqu'un qui va résister, qui va pas se plaindre au moindre, à la moindre chose. Donc je résistais, puis donc j'ai dit, maman, il y a quelque chose qui va pas, faut qu'on aille aux urgences.
Les urgences, c'est le début d'un calvaire médical de plusieurs semaines. Jocunda a du liquide dans un poumon. Il nous raconte les 9 séries d'examens qu'il a dû subir dans 3 hôpitaux. Scanner, prise de sang, ponction lombaire, fibroscopie. Ses douleurs qui ne le lâchent pas. La veille de son anniversaire, il est même hospitalisé en chambre confinée pour suspicion de tuberculose. Il y restera plus de 3 semaines. Malgré tout ça, les médecins ne trouvent pas. Jocunda et sa famille n'en peuvent plus jusqu'à ce dernier examen.
Et ma mère, elle voyait que j'avais plus de douleurs, elle n'était pas bien. Et donc elle voulait plus qu'on touche à mon corps. Elle voulait plus rien. Parce que les docteurs parlaient de faire une ponction au niveau du poumon, mais par l'avant, parce qu'il y avait une tache noire sur le poumon. Et puis donc ils ont fait appel à moi, ils ont demandé ce que toi tu veux. Enfin, pour que je négocie avec ma mère, je dis, moi je suis du côté de ma mère. Si ma mère ne veut pas, je ne veux pas. Donc ils ont fait appel à mon père. Mon père a dit que si ça pouvait faire avancer pour qu'on ait le diagnostic, je veux bien. Ma mère a dit, dans ce cas-là, c'est le père qui a donné son avis, c'est pas moi. Mes parents sont divorcés. Et il se trouve qu'après cet examen, il y a eu des résultats. Et donc 2 semaines après, j'ai pu rentrer, toujours avec des douleurs, donc j'avais des médocs. Et médicaments, j'en rafalais, hein. J'en prenais alors qu'il ne fallait pas en prendre, parce que les douleurs elles étaient trop fortes. Donc j'en prenais plus que ce que je devais prendre. Et les médecins ont appelé un jour et m'ont dit de venir, oui, on a le diagnostic. Donc je suis allé avec ma mère. Moi, j'étais calme, hein. Je pensais que c'était pas grand-chose. Et je suis allé et là, les médecins, d'une certaine manière, m'ont dit, c'est cette phrase, je vais jamais l'oublier. Tu as une sorte de cancer. Je regarde, je dis, quoi ? Il me dit, tu as une sorte de cancer. Ma mère, elle est dans tous ses états. Elle comprend pas. Moi, j'essaie de parler avec le médecin. Elle me dit, j'ai cancer de quoi? Cancer du poumon? Cancer de... Elle me dit, au niveau de la plèvre, tu as un cancer. Je dis, j'ai une tumeur. Elle me dit, non, c'est pas vraiment une tumeur qui gonfle et tout. C'est la plèvre, elle est malade. Et du coup, vu qu'elle est malade, tes côtes, elles se resserrent. Du coup, j'ai une scoliose. Et l'hôpital du Kremlin-Bicêtre m'a dirigé vers ici, l'Institut Gustave aussi. J'ai rencontré mon médecin d'ici qui m'a expliqué qu'on allait commencer avec une première chimio. Et moi, je ne savais pas si j'allais perdre mes cheveux, je ne savais pas s'il me restait du temps à vivre, ou je ne savais rien du tout. Tous les jours, ma mère, elle était là, elle me voyait souffrir. Et le pire, c'est que tous les jours, je parlais mal à ma mère. Parce que, en fait, il fallait bien que je mette ma colère contre des gens. Je la mettrais pas contre les médecins, ni Amélie, l'éducatrice spécialisée. Et je parlais mal à ma mère. C'est ma mère qui prenait tout. Mais elle disait que c'est qu'une épreuve, c'est mon épreuve. Je dois accepter. Et je disais des mots lourds. Et elle le prenait et c'est comme si elle le prenait avec le sourire. Mais je savais très bien qu'elle avait mal. Et je remercie ma mère pour tout ce qu'elle a fait pour moi, parce que c'est elle qui a le plus souffert. Je pense que moi, j'ai souffert physiquement, mentalement, et la personne qui a le plus souffert, c'est ma mère. Elle a beaucoup souffert mentalement. Et mon frère aussi, parce que j'ai changé avec lui. J'ai changé avec ma soeur. Je suis plus comme avant. Et ils le remarquent, et ils le disent. Ils me disent, pourquoi tu es plus comme avant ? Je leur dis, à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? Et le truc que j'ai oublié de dire, c'est que le truc que je déteste, après la maladie, le truc que je déteste le plus, c'est le regard des gens. Parce que déjà, il y a des gens qui vont dire, ouais, pourquoi il n'a pas de sourcils, lui? Parce que ma première chimio, elle m'a fait perdre mes cheveux, elle m'a fait perdre les sourcils. Les remarques comme ça, je sers mon point, j'avance, j'essaie de ne pas interagir. Et donc j'avance. En gros, je suis plus comme avant. Je suis la personne à protéger. On voit la personne à protéger. La personne, on sait qu'elle est faible, il faut la protéger. Et ça, je déteste. Parce que moi, je veux être comme eux. Je veux être comme eux. Je veux oublier la maladie. Je veux faire tout pour pas y penser. Et donc, et moi aussi, je veux retourner à la maison, je veux retourner à l'école. Et voilà, je veux retrouver ma vie d'avant. C'est simple, je veux retrouver ma vie d'avant.
Ce qu'il faut faire pour entrer à la mer, avant de passer ces deux doubles portes, on a ce petit sas où on met des surchaussures. Et une fois qu'on a mis ces surchaussures, on se lave les mains. Il faut toujours qu'une des portes soit fermée avant d'ouvrir l'autre. Voilà. Et là, vous êtes dans le service de la mer.
Je suis Véronique Minard-Collin, je suis pédiatre et cancérologue ici dans le département de pédiatrie à Gustave Roussy.
Interception sur France Inter.
L'enfant est un être fragile, mais il est aussi très fort. Enfin, je veux dire, quand vous avez rencontré ces enfants dans le département, je pense toujours à ce que disait Nietzsche sur la grande santé, mais c'est parfois des tout petits êtres qui ont une telle force et une telle résilience, une telle volonté de vivre, qui est tout à fait remarquable. Et en fait, ce qu'on a bien observé quand on observe l'enfant, l'adolescent et l'adulte, c'est que finalement, l'enfant supporte mieux la chimiothérapie et qu'on est amené à utiliser des chimiothérapies plus intenses chez l'enfant que chez l'adulte. Et ça, c'est une réalité. Pour prendre l'exemple du lymphome, et en particulier du lymphome de Burkitt, où ces dernières années, eh bien, on a trouvé les combinaisons chimiothérapie et immunothérapie qui guérissent la très grande majorité de ces enfants. Eh bien, on n'est pas capable de faire la même chimiothérapie aussi intense chez un adulte qui ne la supporte pas, qui aurait des infections trop graves, une aplasie trop prolongée, une toxicité digestive inacceptable. Donc l'enfant est plus fragile par lui-même, mais finalement supporte mieux la chimiothérapie, tout en étant attentif, bien sûr, d'adapter la dose au poids, à la taille et à son âge, bien évidemment. Donc on a parlé de chimiothérapie, on s'intéresse aussi beaucoup aux effets secondaires aigus de la chimiothérapie, on vient d'en parler ensemble, mais aussi et surtout aux effets secondaires à long terme. L'objectif est de guérir ces enfants, et la grande question c'est à quel prix, et ça c'est une question que nous posent les enfants et leurs familles, à quel prix la guérison. Donc on ne peut pas parler d'une guérison à tout prix. Quand on parle de radiothérapie, plus encore que chimiothérapie, on sait qu'elle est associée à des effets secondaires. Et donc toute la discussion, c'est de savoir si la radiothérapie est associée à des effets secondaires aigus, acceptables, qui nous permettent d'associer aussi la chimiothérapie. Et puis, encore plus importante comme question, est-ce qu'elle est associée à des effets secondaires à long terme, en particulier quand on est amené à irradier les enfants sur le cerveau, qui sont acceptables pour un développement ultérieur qui leur permettra d'être autonomes et d'avoir une vie avec la meilleure qualité possible. C'est surtout quand on parle de radiothérapie qu'on a vraiment besoin de peser les effets secondaires de cette radiothérapie, parce qu'on sait qu'elle apporte souvent à la guérison, mais toujours le prix de cette guérison est important. Et j'en viens au point sur lequel on travaille aussi beaucoup ici dans le domaine de la recherche, c'est d'essayer d'être capable de prédire et de prévenir ces effets secondaires à long terme. Puisque tous, nous n'avons pas la même sensibilité à la chimiothérapie, à la radiothérapie et d'une façon générale au traitement. Cette sensibilité, elle est aussi fonction de notre propre génétique. Et donc ce qu'on souhaite développer, c'est des paramètres qui nous permettent de prédire ce petit, on va lui donner une dose de chimiothérapie, il va avoir ses effets secondaires. Cet autre petit, il a une génétique différente, on sait qu'il va avoir plus d'effets secondaires, baissons la dose de chimiothérapie.
Ça va être à notre tour du coup. Ça va être à Jean-Marie de faire de la musique. Vas-y, après.
Vol, 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 papillon. Au-dessus de mon village, vol, 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 papillon. Au-dessus de ma maison.
Bonjour, Karine. J'habite dans l'Eure et je suis la mère d'un enfant de 13 ans atteint d'un sarcome des Wing, qui est un cancer des os, situé au péroné.
Ça s'est déroulé comment ?
Alors, une annonce de douleur, des examens médicaux passés, détection d'une tumeur, rendez-vous urgent à Villejuif, biopsie et maladie avérée suite au résultat de la biopsie. Donc le 31 juillet. Depuis, mise en place d'un traitement de chimiothérapie et beaucoup de conséquences dans l'accompagnement en fait de mon enfant. On est obligé d'arrêter de travailler parce qu'il y a un manque d'autonomie. Il y a une nécessité d'être présente pour tout ce qui a trait au fait qu'ils doivent garder le moral, qu'on doit s'en occuper. Et également tout ce qui est dû à l'administratif. On découvre la pathologie de son enfant, comme on va découvrir au fur et à mesure que le temps passe tout ce qui a trait aux procédures administratives. Vous êtes la gueule sous l'eau, tellement il y a d'administratifs, de papiers. On avait en fait pour objectif d'arrêter de travailler pour accompagner notre enfant dans sa maladie. Et finalement, on passe plus de temps à passer des coups de téléphone, à rédiger des courriers pour traiter les problèmes qui ont des conséquences sociales et pécuniaires.
À tel point que vous vous retrouvez au tribunal ?
À tel point que j'engage effectivement une procédure contre la sécurité sociale qui n'a pas daigné en fait me rembourser certains de bons de transport auxquels nous avons droit, qui engendre, me concernant, 700 euros de pertes sèches parce qu'une date ne correspondait pas pour la sécurité sociale.
Et vous avez rencontré des parents ?
Oui, j'ai rencontré des familles qui, par exemple, venaient des Tom-Tom et qui, avec une cure de chimio commencée il y a 2 ans, n'ont toujours pas leur billet d'avion remboursé. Donc on n'est plus sur un bon de transport de 100 km. En sachant qu'accompagner son enfant, c'est aussi payer des médicaments non pris en charge, malgré la déclaration d'ALD, qui est l'affection de longue durée auprès de la Sécurité sociale. On fait l'avance de frais d'hébergement, on fait l'avance donc de frais de transport. Voilà, c'est juste exécrable. Mais voilà, on passe vraiment notre temps, non pas à accompagner notre enfant, mais vraiment dans des démarches et de la communication. Voilà, donc notre rôle de parent, c'est de pallier aux dysfonctionnements qui sont vraiment transversaux.
Voilà. Parce que ça a de quoi rendre fou, quoi.
Aux États-Unis, il est vrai que lorsqu'une personne tombe malade, on sait très bien que pour se soigner, une des finalités peut être de vendre un bien immobilier par rapport au coût des frais médicaux. En France, pas une seule fois, on se fait cette remarque parce que ça ne nous paraît pas logique avec les protections sociales qu'on a. Sauf que, à force de manque de réactivité des administrations, nous faisons l'avance de beaucoup de frais. Donc au bout d'un moment, vous accumulez les dettes, que ce soit effectivement l'avance de frais de transport, des médicaments, de l'hébergement. Vous arrivez, au bout de 6 mois, à vous poser la question comment vous allez pouvoir payer vos charges. Donc voilà, il y a une impasse financière qui se présente à vous. Moi, la question que je vais me poser clairement, c'est est-ce que fin janvier, je vais devoir ou non vendre ma maison ?
Gustave Roussy est le plus grand centre européen de traitement des cancers pédiatriques. Alors, il attire des patients du monde entier. C'est tout leur univers qui bascule à chaque fois, tout laisser derrière soi au pays, refaire sa vie à l'ombre de la maladie. Et souvent, financer par ses propres moyens les frais d'hospitalisation très lourds. Par exemple, 2800 euros par jour pour un jeune papa lituanien rencontré dans un couloir. Il a même lancé une collecte sur Internet, devenue un des records de dons dans son pays. À moins de 5 minutes à pied de l'Institut Gustave Roussy, une petite maison construite en 1991 pour accueillir les parents. C'est la maison des parents. Là, le soir, les familles se retrouvent ensemble dans un autre cadre que le cadre hospitalier. On se fait des connaissances. On peut s'asseoir. Vous venez d'où ?
De La Réunion.
L'île de La Réunion.
Oui.
Et vous vous appelez ?
Corinne.
Et c'est votre fille de 15 ans,
oui.
Qui est malade ? Comment elle s'appelle ?
Shaina. Et je voyais ma fille tous les jours, elle mangeait beaucoup. Enfin, elle était mince, hein. Mais elle mangeait beaucoup au début. Et après, à un moment donné, son appétit a coupé. Je lui dis, pourquoi tu ne manges plus ? Et on voit le médecin toujours. Le médecin dit, non, elle est angoissée parce qu'il y a des brevets à passer ou quoi que ce soit. Je dis, non, fais-moi un bilan quand même pour voir qu'est-ce qu'il y a à ma fille. Et c'est là, après, quand le 6 novembre 2016, elle a dit, fais un bilan. Et après, elle a vu quelque chose dans le ventre éclater. Je dis, oh là là, c'est quoi ? C'était la perte soi-disant. Et à la longue, après, elle a continué l'opération jusqu'à 0h le soir. Mais elle a dit, madame, désolée, on a trouvé un cancer à votre fille, aux ovaires. Et c'est là, c'était la chute pour moi. Parce que moi-même, m'a tellement choquée, je vous dis franchement, j'ai pris la voiture, j'ai failli foncer dans un mur. C'était choquant, choquant, choquant. Et là, maintenant, le médecin a conseillé de partir à Paris pour occuper le cancer encore une fois, mais sur le foie maintenant. Elle est partie sur le foie. Et là, elle est rentrée depuis le 3 janvier et toujours à l'hôpital. Mais c'est juste pour faire la chimio et une pré-greffe. Donc, ça va maintenant. Mais ouais. Là, bon, ça va, entre guillemets, parce que là, actuellement, elle est en réanimation.
Et ils vous aident aussi un peu, vous, ils vous...
Ils m'aident quand même sur tout, hein. Ici, ils aident bien. De temps en temps, un petit massage. Ils font ça ici. Et ça aide du bien, ça fait du bien, du bien. Donc, surtout, même, il y a des gens, enfin, des personnes me disent, elle a 15 ans, elle peut partir à Paris tranquillement à l'hôpital, sans les parents. Je dis non. Je fais tout mon possible pour l'accompagner et j'ai fait ça même. Mmh. Même le petit, hein, le petit 4 ans là, quand il voulait regarder la réunion, je dis non, je l'amènerai à Paris avec nous pendant les 3 mois ou 4 mois, mais on accompagne ma fille. Mmh. Voilà. On n'est pas riche, mais on a fait tout notre possible pour accompagner ma fille, ça c'est sûr. Mmh. Ouais. Moi je ne travaille pas, mais je fais tout mon possible pour venir ici.
Est-ce que vous avez trouvé qu'elle avait été bien prise en charge par les médecins? Est-ce que vous avez trouvé que les diagnostics étaient plutôt performants ou...
Non, ça allait partir vite quand même. Au début, c'était bon. Elle a fait tous les bilans et tout, c'est super. Mais après, à la longue, avoir des médicaments de haute dose, c'est un petit peu affaibli quand même.
Bonjour. Comment tu t'appelles ? Maxence, bonjour Maxence. Tu viens jouer avec nous ? Vous êtes prêts ? Mais là, l'éléphant, il se mouche. Il lui faut un grand mouchoir. Oh, comme ça, attention.
Une fois par semaine, dans une salle à l'écart des chambres, c'est un ballet de blouses blanches. L'ensemble des médecins du service ainsi que des spécialistes venus d'autres hôpitaux parisiens se réunissent pour faire le point sur chaque cas. Ils sont une trentaine autour de la table, un écran géant au mur pour les images médicales. Sous la direction de la chef de département, la réunion va durer tout l'après-midi.
Je m'appelle Dominique Valtocoané et je suis chef du département de cancérologie de l'enfant et de l'adolescent à Gustave Roussy.
On a l'impression qu'il y a une gangue autour de tout le rein. Des plages peut-être d'ischémie et de nécrose au pôle inférieur du rein.
Non, c'est vrai quand on voit ces images.
Au pôle supérieur, on a l'impression qu'il y a quand même un éperon de part et d'autre.
Plus partant du rein qu'un rein refoulé par une boule qui l'écrabouille en fait. Pas du tout médical.
Parce qu'il aurait été écrabouillé pas comme ça et vers le haut. Cette image-là, pour moi, ça signe plutôt un éperon. Il aurait été écrabouillé.
Notre réflexion pour chacun des enfants qui est pris en charge dans le département, c'est la mise en commun des connaissances et de la réflexion de chacun. Et donc, on met autour de la table, au sens propre du terme, des spécialistes différents, c'est-à-dire des oncologues médicaux, des radiologues, des anapathes, des radiothérapeutes et des chirurgiens. Et toutes ces personnes vont apporter leur expertise pour pouvoir définir au mieux la stratégie thérapeutique. Et donc, nous partageons une expérience qui est à la fois une expérience propre, mais aussi une expérience nationale et internationale pour la mettre au service de la meilleure stratégie, du meilleur chemin possible pour chacun des enfants.
On a une tumeur avec finalement très peu d'expression, qui est très indifférenciée et qui, dans son aspect histologique, se rapproche plutôt de ce qu'on voit dans les sarcomes indifférenciés hépatiques.
Il y a 15 cas décrits dans le monde, à peu près, quelque chose comme ça. Mais il se trouve qu'on a eu une suspicion et que donc j'avais travaillé un petit peu là-dessus.
Le principe de cette réunion et la façon dont j'essaie de l'animer, puisque c'est moi qui la coordonne, c'est de susciter les propositions thérapeutiques et d'essayer d'essorer les cerveaux de chacun pour en tirer le maximum de ce qu'ils savent et pour que soit mis dans la discussion le maximum de connaissances pour prendre la décision. Il n'est pas question d'avoir un mode de fonctionnement du haut vers le bas avec quelqu'un qui sait et qui distille son savoir. On est beaucoup plus intelligent à plusieurs que tout seul. Et c'est cet échange, cette réflexion qui fait progresser des choses et qui amène à prendre une bonne décision. Et nous, dans notre RCP, on a la chance d'avoir autour de la table des gens qui sont tous des experts dans leur domaine, au niveau national et international. Mais l'expérience de chacun dans le cadre de sa maladie sert aussi aux autres à réfléchir à d'autres problèmes. Et à la fois, on a donc l'expertise dans un domaine précis, mais aussi la confrontation à d'autres personnes qui ont des savoirs différents. Et c'est extrêmement stimulant. Ça pousse jusqu'au bout nos raisonnements. Et ça nous permet, je pense, de prendre la meilleure décision possible à un moment donné. Après, les choses sont complexes et on apprend aussi notre expérience. Et c'est là aussi que c'est important d'avoir autour de la table des gens d'âge différents, parce que l'expérience apporte aussi du recul et on peut partager ça avec les plus jeunes. Et ça participe à la réflexion. Et vous l'avez vu, chacun participe à la discussion avec son savoir, est écouté avec respect. Et chacun, quel que soit son âge, peut participer. Il n'y a pas de question là, vis-à-vis de ça. Et cette confrontation, parfois, dans des choses où on n'est pas tous d'accord, permet que chacun aille jusqu'au bout de son raisonnement et justifie son point de vue. Et ça aide à prendre la moins mauvaise décision dans certains cas.
On vous laisse la doyenne.
Moi, c'est Koulibaly Awa.
D'accord.
Voilà, on m'appelle Kouli, Fufuna, Berthe Grandpied, Eve, tout ça, c'est moi.
Seigneur Jésus.
Eh bien, qu'est-ce que je vais raconter, moi?
Je sais pas, qu'est-ce que ça te fait après 38 ans de quitter le service?
Mais écoute, ce que ça me fait, ça me fait tout drôle. Et pendant 38 ans, j'ai été vraiment heureuse, j'ai appris pas mal de choses ici. C'est vrai, je pars, j'ai un pincement, mais c'est comme ça.
Vous dites que vous avez beaucoup appris, avec les enfants.
Avec les enfants, le contact des enfants, tous les jours, c'est
agréable.
Voilà.
Ah oui, ils vous donnent beaucoup.
Ça vous donne beaucoup. Beaucoup. Alors on arrive le matin, on est plus ou moins pas bien, on les voit, ça nous donne et puis nous voilà, nous partis. Vraiment, je ne sais même pas quoi dire. Moi, je suis tellement émue, je suis tellement contente. Si j'ai pu apporter ou contribuer à un petit quelque chose, tant mieux. Mais c'est vrai que moi, je pars vraiment contente, mais le cœur bien, trouve pas les mots. Et puis la pédiatrie, c'est un service à part.
C'est quoi la différence?
La différence, c'est que les adultes, et ici, c'est autre chose. Les enfants, ce sont nos enfants. Voilà. Et franchement, il n'y a rien à dire. Les chefs de service, Mme Balto, les médecins, les infirmières, les aides-soignants, il n'y a rien à dire. Et je les remercie de m'avoir supporté pendant toute cette année.
Relis cette phrase. De mon...
Mon père, qui est anglais, ne me reste que ce nom et quelques taches de rousseur sur le nez.
Je m'appelle Philippe. Je suis enseignant dans le cadre de Gustave Roussy, enseignant d'éducation nationale.
Donc c'est un cadre très particulier pour faire des cours.
Oui, c'est un cadre très particulier parce que c'est une école qui correspond à l'univers de l'hôpital. C'est-à-dire que c'est pas l'école à laquelle on arrive le matin, que l'on quitte à la mi-journée ou à la fin de la journée. C'est une école que l'on fréquente, disons, à la carte, c'est-à-dire en fonction des disponibilités des enfants. Les enfants peuvent venir toute la journée, comme peuvent venir la demi-journée, voire une demi-heure. Voilà, donc c'est adapté aux besoins et surtout aux possibilités des enfants.
Et de votre expérience, c'est plutôt efficace, ça marche, ils arrivent à ne pas perdre une année ou perdre une peut-être.
L'objectif, c'est de faire en sorte qu'ils ne perdent pas de temps dans leurs apprentissages, la dynamique d'apprentissage. Maintenant, l'avantage qu'on a dans ces petits cours particuliers, c'est que ça consolide des notions. Et si un enfant arrive en disant « j'ai besoin d'aide sur tel point en particulier », on l'aide. S'il n'analyse pas forcément de façon particulière, nous, on détecte rapidement où il y a besoin de renfort et on y va. On en profite de ces instants qui sont souvent de l'ordre du cours particulier, voire de la très petite classe. La seule chose, c'est que c'est toujours, ce sont toujours des groupes hétérogènes. On n'a pas deux enfants au même niveau, au même moment. Voilà. Ça rappelle l'esprit de la classe unique, avec cette particularité que, au début de la journée, on s'adapte en fonction des enfants qui sont présents ici. On y va, là, sur les maths, un peu ?
39, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.
On s'est arrêté à combien, là ?
49.
L'objectif, c'est d'oublier aussi où nous sommes, de penser à autre chose, donc de revenir dans l'univers de l'enfant, principalement. C'est notre but premier, notre but. On ne va pas dire qu'on n'est pas là pour faire de pédagogie, bien au contraire. La pédagogie, c'est donc ce lien qu'on va maintenir avec l'école. Mais la première chose, c'est déjà de se libérer du certain poids réel qui pèse quand même sur des épaules très jeunes. Voilà, quand on a même des activités scolaires et éducatives liées, qui intègrent des paramètres scolaires, mais qui intègrent surtout l'élément fondamental de se remettre à rêver, à créer, à penser, à s'envoler. Voilà, on est dans le sens, ça ouvre une grande, grande fenêtre. Et des enfants qu'on voyait des fois un peu tristes, que l'école des fois peut un peu inquiéter aussi, parce que voilà, ça peut rajouter un poids au poids qui existe déjà de par les contraintes médicales. Là, quand on fait de la cuisine, on va faire un gâteau qu'on va offrir aux parents, on va reprendre aussi goût au fait de manger. Et voilà, on rentre dans une dynamique de vie fondamentale. Donc c'est là que l'objectif est atteint. Si on a des enfants qui sont autour d'une table, soit dans la classe, ou dans l'espace en tout cas, qui est hors du milieu cadre particulièrement hospitalier, dès qu'ils sont en train de sourire, on a gagné. C'est là qu'on pourrait dire qu'on a notre spécialité, c'est d'entraîner les enfants à rester des enfants et pas partir dans certaines pensées un peu sombres qui peuvent, hélas, les atteindre. Voilà.
Ne pas laisser toute la place, tout le temps disponible au cancer, ne pas le laisser boucher l'horizon et empêcher de tirer des perspectives vers l'avenir. C'est le but recherché par la prise en charge globale développée ici, soigner et préparer la vie d'après. À chaque espace son nom, le village pour l'hôpital de jour, la mer pour l'unité de soins protégés, la plaine pour le couloir des enfants et la montagne pour les ados. Ils y ont leur endroit à eux, c'est marqué sur la porte, le squat. Au fond de la pièce avec vue sur Paris, il y a un flipper, un baby-foot, des livres, des vidéos, des consoles, et puis un canapé. Les ados viennent ici quand ils veulent, et les adultes ne peuvent entrer que s'ils y sont autorisés. Heureusement pour nous, Jason nous a dit oui. À 14 ans, ce collégien de Montreuil a été diagnostiqué en novembre. Il a commencé sa chimio, alors ses cheveux sont tombés, mais son regard reste le même, et sa vie continue.
Je faisais de la danse avant. Je faisais 6 heures de danse par semaine. Il y a de la danse contemporaine et un peu de classique. Puis parallèlement aussi, j'apprends des langues étrangères. J'apprends le japonais tout seul. Donc,
tout seul ?
Ouais, ça fascine les gens quand je leur dis. Puis aussi, j'invente une nouvelle langue.
Comment ça t'est venu cette idée ?
Je sais pas, je me suis dit, tiens. Enfin, c'est un projet, je pense, que j'aurais pas pu faire si j'avais pas eu le cancer, je pense. Parce que peut-être aussi, j'aurais eu moins le temps. Moi aussi, là, je me suis dit, bon, si jamais il m'arrive un truc grave, comme ça, je le fais, et c'est bon.
Et t'en es où, alors ?
Là, j'en suis vraiment au début, parce que si, comme les traitements, ça fatigue beaucoup.
T'imagines que des gens vont la parler ?
Pas forcément, je vais l'apprendre à mes amis sur Internet. Mais après, aussi, je peux l'apprendre à ma famille.
Tu reviens chez toi, de temps en temps ?
Je reviens chez moi, de temps en temps. En fait, en ce moment, je suis dans une première phase de cure. Donc dans cette première phase, il y a 9 cures. Et entre les périodes de chimio, il faut rentrer chez moi. Parce que sinon, je ne peux pas faire tout enchaîner tout de suite. Parce que sinon, ça pourrait être de la chimio à haute dose. Sauf que pour l'instant, je ne suis pas encore prêt. Normalement, ça va m'arriver après les cures, mais c'est J'appréhende un peu, mais ça va bien se passer.
Qu'est-ce qu'on t'a dit sur ce qui la suite de cette chimio?
Je vais faire de la chimio haute dose pendant à peu près 4 semaines. En fait, on est enfermé. Justement, c'est fermé parce qu'on est dans ce qu'on appelle la plasie longue. Et pendant la plasie longue, si par exemple le corps est en contact avec une bactérie ou quoi que ce soit, ça peut avoir des conséquences un peu graves. Donc du coup, pour vraiment préserver le corps, vraiment, il n'y a aucun contact. Il y a des contacts avec l'extérieur, mais vraiment très contrôlés. Et ensuite, j'ai fait de la radiothérapie pendant à peu près 6 semaines. Et ça va être tous les jours, sauf le week-end et les jours fériés.
Et ça se passe comment?
C'est centré sur une zone, c'est-à-dire mes vertèbres, là où il y a la tumeur. Et justement, ça attaque les cellules cancéreuses.
Et comment tu vis ici? Comment ça se passe une journée? Déjà, est-ce que tu as le droit de faire la grasse mat?
Oui. Oui, et d'ailleurs, ce matin, je l'ai fait. Parce que j'étais vraiment fatiguée avec un des produits qui a été injecté. Mais ouais, ici, il n'y a vraiment aucune règle au niveau du coucher. Par exemple, je me couche à minuit et je me lève. Enfin, on me réveille le matin pour me demander si je veux prendre mon petit déjeuner. Bon, là, je ne le prends plus parce que aussi, j'ai la nutrition entérale. C'est-à-dire qu'on m'injecte de la nourriture pendant la nuit. Donc, du coup, j'ai plus faim le matin.
Et là, qu'est-ce qu'on t'injecte là? C'est quoi le...
Donc là, on m'injecte du sérum Pi pour hydrater. Et puis aussi les produits pour contre la nausée. J'ai une chambre implantable donc qui est sous ma peau. Et donc en fait, à chaque fois que je viens à l'hôpital, on me plante une aiguille dans la poitrine. Du coup, on n'est pas obligé de... C'est pas un caté, c'est plus pratique et ça fait pas mal.
Tu t'habitues à vivre avec ça
Au début, c'est vraiment gênant. Par exemple, la sonde, quand on me l'a posée pendant 2 jours, c'était vraiment désagréable. C'était un des trucs que je trouve le plus désagréable dans ma vie. Vraiment horrible. Mais à force, on commence à s'y habituer. Puis même, par exemple, les vomissements, au bout d'un moment, ça lasse un peu. Du coup, ça fait plus rien. Là, c'est pas la joie tous les jours. Mais quand même, il y a les infirmières, le personnel et tout. Il y a Amélie. Tout. On s'amuse bien, il y a les activités. Donc, ça remonte le moral.
Ouais. Alors, justement, c'est quoi les activités?
Alors, hier, on a fait une activité d'improvisation musicale.
Avec instrument?
Ouais, le matin et aussi du beatbox. Le matin, il y avait l'atelier Oui, donc avec la psychomotricienne Amélie. Aussi, une prof de PS. Il y a aussi la prof d'art plastique. Il y a aussi, des fois, il y a des profs qui passent.
Et vous êtes nombreux là, dans l'unité?
Dans le service, il y a à peu près 10 places. En général, des fois, on fait les activités ensemble. Donc,
Et entre vous, est-ce que vous parlez aussi... vous parlez des activités, est-ce que vous échangez aussi sur les traitements, sur la maladie?
Parfois. Parfois, aussi avec les parents d'autres enfants. Mais des fois, je pense qu'il y a des... Par exemple, moi, je me souviens, la première fois que j'en avais parlé à quelqu'un d'autre, j'avais fondu en larmes. Mais c'est vrai que au début, c'est un peu difficile. Puis après, c'est tellement banal. En fait, c'est tellement rentré dans notre vie. Au final, on en parle, même comme ça, j'en parle des fois à des proches, comme si je leur parlais de la pluie du beau temps, en fait.
Et comment eux, ils reçoivent ça?
Ils me disent que de toute façon, ça va aller, que je vais guérir. Mais après, c'est vrai que, par exemple, mes parents, ça leur a donné un petit choc, ma sœur aussi, mes grands-parents, mon grand-père paternel aussi. Donc c'est vrai que ça chamboule vraiment l'équilibre familial.
Sur les murs, dans les couloirs du département en pédiatrie, il y a partout des affiches, des dessins. Ce sont tous des travaux d'enfants réalisés ici. La chef du service y tenait beaucoup. Elle nous a dit qu'elle ne voulait pas d'œuvres extérieures. Alors on trouve des dessins, un cheval blanc, on trouve un personnage. Et puis on peut lire aussi ce poème de Sabira, 19 ans. Un poème... d'après Aimé Césaire, écarte les épreuves, écarte les obstacles, chasse les microbes, bras, épaules fortes qui tient l'épée, joli bracelet au poignet de la fiancée, doigts plus beaux avec une bague en or qui embellit la main de la mariée, tu ouvriras tes paupières, un éventail très beau, sur un désert décoré de grains de sable doré, comme la couleur de tes cheveux sous le soleil. C'est donc de Sabira, 19 ans.
Interception, le magazine de reportage de France Inter.
Je suis le docteur Grill, je suis responsable du comité de pédiatrie à Gustave Roussy et à ce titre, une de mes attributions importantes est l'organisation de la recherche dans notre département. Les enfants n'ont pas les mêmes cancers du tout que les adultes et même quand on a l'impression que c'est les mêmes, biologiquement, ce ne sont pas les mêmes tumeurs. Donc on ne peut pas du tout prendre, en adaptant simplement les doses, les traitements qui existent pour les adultes. On est obligé de soit effectivement détourner des traitements pour certains cancers d'adultes et qui, par chance, peuvent soigner les cancers d'enfants. On a un exemple spectaculaire ces dernières années où un médicament qui a été développé pour le mélanome de l'adulte est devenu un médicament extrêmement efficace pour certains gliomes de l'enfant et probablement même plus efficace qu'il ne l'est pour le mélanome. Donc en fait, là, on profite de la recherche qui a été faite pour les adultes quand on a une petite fenêtre qui s'ouvre pour traiter un enfant. Et puis, il y a d'autres maladies où on n'a pas cette opportunité, cette chance-là, et on est obligé de pouvoir développer des choses spécifiquement pédiatriques.
Parce que quelle est la spécificité des cancers de l'enfant? Quels sont, pour résumer, pour expliquer de manière générale, quelles sont les différences, justement?
Alors, il y a des différences sur la nature des tissus, parce que beaucoup de cancers de l'adulte sont développés à partir de tissus de revêtement. Le revêtement des poumons pour les cancers du poumon, le revêtement de l'intestin pour les cancers de l'intestin. Alors que les tumeurs de l'enfant, c'est des tumeurs qui sont plus d'origine embryonnaire, c'est-à-dire c'est dans le développement de l'organe qu'il y a quelque chose qui se passe mal et qui veut évoluer vers un cancer.
Et là, on sait que chez l'adulte, il y a un long développement, c'est très... Enfin, il y a une espèce de courbe régulière. Mmh. Est-ce que chez l'enfant, on a l'impression, au contraire, que si on dessinait une courbe, chez l'enfant, elle n'aurait pas du tout le même profil dans le développement et la violence de la maladie?
Oui. Alors, pour la courbe elle-même, ce qu'on sait, c'est que les cancers de l'enfant poussent beaucoup plus vite que les cancers de l'adulte. Et c'est pour ça que nous, on vit chaque nouveau diagnostic comme une urgence extrême. C'est pas du tout la même chose pour le cancer du sein. Le cancer du sein, si vous voyez pas votre oncologue dans les 3 semaines qui suivent le diagnostic, ce n'est pas grave. Par contre, une tumeur de l'enfant va évoluer, va entraîner des problèmes, effectivement des conséquences directes de la tumeur, soit des difficultés sur le plan thérapeutique. Donc on est dans un domaine de l'urgence à cause de l'évolution rapide de ces tumeurs de l'enfant. Et l'autre différence, c'est que nous, pédiatres, on ne peut pas se satisfaire d'une survie à 5 ans pour dire, bon, voilà, on guérit tant de pourcents. Parce qu'en fait, les enfants, ils vont avoir toute une vie derrière ou pas. Et donc, quand on donne des chiffres à 5 ans, qui sont souvent intéressants et motivants pour les gens, ça cache une réalité qui est un enfant qui est vivant à 5 ans de son cancer peut rechuter à 6 ans, peut rechuter à 7 ans, ou pour certaines maladies, des histoires à rallonge. Et l'autre réalité des cancers de l'enfance, c'est que guérir, ce n'est pas à n'importe quel prix. Et que derrière, il faut que l'enfant puisse suivre une scolarité, s'intégrer socialement, devenir indépendant. Et ça, pour un certain nombre de tumeurs, comme les tumeurs cérébrales en particulier, c'est une vraie gageure.
Émilie Le Sueur. Et donc, on vient une fois par an pour un suivi, avec voilà, tous les effets secondaires qu'on peut avoir après une maladie qui s'est déclenchée quand Clémence avait à peine 3 ans. Donc on est à plus de 10 ans après. Elle a été essentiellement suivie sur Reims, mais également sur Paris. Elle a eu 2 gros séjours en chambre stérile. Il y a eu une adaptation sur le protocole qui fait qu'après coup, ils se rendent compte qu'il y a des effets secondaires un petit peu particuliers. Il y avait d'autres effets secondaires. Par contre, ils s'attendaient à les avoir, notamment au niveau pubertaire, au niveau ovarien. On savait que ça avait fait des dégâts. Mais bon, Clément, c'est là, à cause des traitements. Mais là, on a d'autres soucis, notamment de prise de poids et puis de douleurs neuropathiques. Et ça nécessite un suivi pendant plusieurs années. Puis après, il y a aussi, voilà, pour devenir une adolescente, il y a des conséquences qui étaient là et qu'il faut accompagner.
Tout ce que vous traversez aujourd'hui, ça vous semble sans rapport?
Oui, mais parfois, quand on revient sur des lieux comme ici, ou quand Clémence va pas bien, on se rappelle quand même, ça reste assez vif, surtout pour moi, la maman, plus que pour les autres, je pense. Après, Clémence a beaucoup oublié, elle était quand même petite, donc elle va de l'avant. Bon, elle a un quotidien qui est parfois un petit peu différent, mais elle arrive à avoir une vie normale quand même.
mis à part qu'elle grossit pas, sinon c'est une vie normale de jeune adolescente. Quoi.
Tout à fait, voilà, avec un peu plus de fatigue, mais elle se connaît. Après, elle s'est construite comme ça, donc les enfants, ils se connaissent, ils savent leurs limites. Après, il faut adapter autour de ça et ça se passe bien. Après, parfois, il faut mettre au courant un peu l'entourage, qui même les autres enfants qui ne savent pas forcément, qui n'ont jamais côtoyé ce type de maladie. Donc, bon, ils sont parfois un peu sévères, mais il y en a beaucoup qui sont quand même très solidaires.
Oui, vous disiez, il y en a qui ne comprennent pas tout au collège, tout ce qui se passe, notamment la fatigue.
Ah ben, certains pensent qu'il y a, voilà, il y a du favoritisme sur des possibilités d'aller se reposer dans une salle. Bon, peut-être qu'il va falloir faire une démarche pour aller leur expliquer que voilà, ça n'arrive pas à tout le monde, mais quand ça arrive, derrière, il y a des précautions à prendre et les médecins nous ont demandé de mettre en place quelque chose qui lui permette de suivre une scolarité normale, mais avec une fatigue qui est présente. Donc s'il faut qu'elle aille se reposer, c'est que c'est indispensable, c'est vraiment vital.
Et toi, Clémence, est-ce que tu as des souvenirs un petit peu de ce que tu as vécu ici ?
Ben, assez vague, parce que j'étais encore jeune.
Pour toi, c'est pas quelque chose de présent, pas quelque chose que tu as dans ta tête.
Non, c'est pas. J'ai pas d'image particulière.
Tu disais, enfin, dans la consultation, que tu te sentais souvent fatiguée, c'est ça ?
Oui, ça arrive souvent d'être plus fatiguée, mais globalement, ça va quand même.
Les enfants de Gustave Roussy, La vie malgré le cancer, reportage signé Grégoire Lecalo, avec à ses côtés Jean-Marie Porcher et Arthur Gerbeau à la prise de son. Mixage, Basile Bocquer. Michel Soulier a réalisé cette émission avec l'aide de Stéphane Combe. À dimanche prochain.